CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être fidèles au MAG du pays Midi-Quercy. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous sommes encore dans le joli mois de l'Europe, Nicolas Taravellier, qui est délégué régional de Solidarité Jeunesse, plus connu sous le nom de l'association Citrus, qui est à la Guépie, évoque l'éco-festival qui a eu lieu déjà deux fois à Sept-Fonds. Nous aurons également la rediffusion de l'entretien avec Catherine Ducos, adjointe au maire de Verlac-Tescou, qui nous parlait de la labellisation européenne de l'église de la Vinouse et à l'occasion des journées du patrimoine, des visites organisées pour que les habitants viennent voir la réhabilitation de cet édifice. Puis Sandrine de Pradier, de l'inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy, nous expliquera les conséquences de cette labellisation intéressante. Reçu à la mairie de Nègrepelisse, en visite à la médiathèque pour voir l'exposition Marchérama de la cuisine, puis à l'épicerie multiservice de Bioul, le préfet de Tarn-et-Garonne, Jean-Louis Géraud. Que venez-vous faire ?
Écoutez, je suis venu montrer ce que pouvaient faire les fonds structurels européens pour accompagner les projets locaux. Et je disais tout à l'heure que l'Europe, ce n'était pas seulement un organisme qui produit des normes, c'est aussi des actions de solidarité à l'égard de l'ensemble des pays de l'Europe. Et la mise en œuvre des fonds structurels, c'est la traduction de cette solidarité. Et le pays Midi-Quercy en est un bon exemple, puisque en même temps, ce n'est pas des projets disséminés à droite et à gauche, mais c'est un projet de développement global de territoire qui est mis en œuvre par les acteurs locaux eux-mêmes. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec ce multiservice en est l'exemple. Ce qu'on a vu tout à l'heure à la médiathèque en est un autre. Et voilà, et c'est ça le développement local avec l'appui de l'Europe. Et je crois qu'il faut le faire connaître parce que l'Europe est méconnue par l'ensemble de nos compatriotes. Ou quand elle est à travers ses normes. Et c'est pas seulement ça. C'est 26 millions d'euros, c'est important. Et puis on le voit sur un projet comme celui-ci, l'intervention de l'Europe sur le montage financier, elle est déterminante. 50 000 euros, c'est plus de 20% du projet auquel on ajoute les contributions des autres partenaires. Sans cet accompagnement, ces projets-là ne pourraient pas voir le jour. Donc c'est pas tant la masse globale que le niveau d'intervention projet par projet qui est important, mais bien que la masse globale soit significative.
Le préfet du département, Jean-Louis Géraud, en visite en pays Midi-Quercy pour inaugurer ce joli mois de l'Europe qui permet de faire le point sur les financements européens des projets territoriaux locaux. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, nous récapitulons les actions qui ont été financées en partie par une aide européenne. Nicolas Taravellier, vous êtes délégué régional de Citrus Solidarité Jeunesse et vous aviez organisé un éco-festival qui a déjà eu lieu deux fois à Sept-Fonds, à la commune où vous étiez implanté. En quoi ça consistait l'éco-festival ?
Alors l'éco-festival consistait essentiellement à réunir des volontés locales autour d'un événement et pour ce faire un événement un peu festif qui était donc un éco-festival, donc une thématique autour de la danse et musique traditionnelle sous chapiteau qui se faisait sur la commune de Sept-Fonds en 2009 et qui a été réédité en 2012.
Et à votre grande surprise, il y a eu beaucoup de public intéressé par la danse traditionnelle et beaucoup de groupes qui sont venus, même au grand étonnement des Sept Fontois.
Tout à fait, hein, c'est la, donc pour cette deuxième édition, on était reparti un peu sur la base de la première avec une programmation assez éclectique et un public avec de plus en plus d'engouement sur le territoire et des gens qui venaient certes du territoire mais aussi de bien plus loin, de toute l'Europe entière pour assister à cet événement-là.
C'est ça qui est remarquable, c'est un festival sans frontières parce que on s'est aperçu grâce à des actions menées par Citrus d'ailleurs que la musique traditionnelle, quand on était musicien turc, musicien suédois, italien, breton, espagnol, et qu'on jouait ce qu'on avait dans la tête de musique traditionnelle, ben les danses se fédérer, et vous avez même fait venir des musiciens une année qui ont constitué un groupe alors qu'ils se connaissaient pas et qui ont pu jouer.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans la musique traditionnelle, c'est que on part bien sûr sur des traditions orales qui existent depuis très longtemps, mais également sur des constructions autour de l'improvisation, autour des influences actuelles, et là où on se rencontre des musiciens venant de tous bords, de très éclectiques. Ça peut être des Turcs qui vont aller jouer avec des Italiens, avec des Français, tout en respectant les cycles de danse. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet quand même de danser sur les danses que nous avons apprises jeunes ou moins jeunes, un peu avant, hein, et ça permet bien entendu de pouvoir faciliter la mixité des publics, parce que les danses sont très très simples, avec quelques pas de base on est capable de danser toute la soirée et de s'amuser tout autant que ceux qui dansent depuis très longtemps.
D'ailleurs, à cet éco-festival, il y avait des, on peut même pas dire des stages, c'est des moments d'initiation avec des vrais musiciens qui jouaient en fin d'après-midi pour que on puisse aller ensuite au vrai bal en ayant l'air moins de manche.
Tout à fait, c'est un des moments qu'on affectionne particulièrement, c'est ces initiations gratuites en amont de chaque événement. En plus de ça, nous avons mis en place des petits stages de danse pour ceux qui voulaient aller un petit peu plus loin, qui ont été animés par les musiciens qui ont participé à l'événement. Donc il y avait des stages de danse turque, de tambourin italien, des choses comme ça, qui permettaient à tout le monde de pouvoir aller un petit peu plus loin que juste apprendre les pas de base.
Et à travers cette manifestation, vous avez aussi restitué la vie associative locale, puisqu'il y avait un village avec des stands de qui partaient dans toutes les directions, hein, que ça soit du recyclage, que ça soit de la fabrication artisanale de divers objets. Comment vous avez été reçu quand vous avez fait cette proposition?
Ce qui nous intéressait essentiellement, c'était impliquer les acteurs locaux sur la thématique. Alors, depuis 2009, on travaille avec une association qui s'appelait les Babeltut. On a travaillé l'année dernière, en 2012, avec Mélane Gabu, donc qui est plasticienne, pour mettre en œuvre un petit peu, mettre en scène tout le site. C'était vraiment important pour nous qu'on puisse un petit peu transformer le village le temps de l'événement. En tout cas, une partie du village là où se passait le festival. Donc ça, c'est une réelle volonté. En plus de cela, nous avons mis en place deux groupes, hein. Un premier qui était autour d'un marché artisanal avec des producteurs locaux, bio en majorité, qui proposaient donc leur production, qui vendaient sur le marché. Et en parallèle, un marché, ce qu'on appelle nous de artisanal, où c'est des gens qui étaient artisans, qui travaillaient le cuir, le bois, le ballon, je ne sais quoi encore, qui permettaient de faire des ateliers tout au long de l'événement, pour pouvoir impliquer un peu plus les publics, et tous les publics, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, la journée en amont des grands moments de bal qui avaient lieu toutes les soirées.
Et bien entendu, à l'occasion de cet événement, il y avait des volontaires venus d'un petit peu partout, avec comme mission de préparer cela, y compris en allant animer des marchés en amont pour montrer ce que c'était cette musique-là. Et les Sept Fontois étaient un peu sidérés de voir les jeunes asiatiques, turcs, je ne sais où, jouer du violon, de l'accordéon. Ça fait chaud au cœur, ça.
Oui, c'était important pour nous de pouvoir mener en parallèle un chantier international qui avait une double thématique. Une première thématique sur la réfection du Jardin Notre-Dame, qui est un lieu d'animation pédagogique sur le site à Sept Fonts, et en parallèle pouvoir préparer l'événement de l'éco-festival, alors sur un coup de main sur la déco, mais aussi en allant tracter sur les marchés, en faisant un peu de musique, en mettant en scène la course de brouette par exemple pour les jeunes qui avaient lieu le dimanche, ou des choses comme ça.
Et des mémoires ont été gravées, puisque la plupart des choses ont été photographiées ou filmées.
Tout à fait, il y a eu un suivi vidéo, il y a eu beaucoup de photos, il y a eu une grosse implication de personnes et de groupes d'artistes, notamment, on peut citer, le mot m'échappe là. Tout un travail qui a été fait sur la mémoire de Sept Fonts, avec une déambulation au cœur du village qui a vraiment touché les habitants. Ça s'est vraiment fait avec eux. On peut aussi souligner la participation du lieu d'accueil La Cheminée, qui nous a permis de pouvoir loger les artistes et les bénévoles durant le festival, et qui était vraiment en adéquation avec nos valeurs, ce qui a été vraiment un chouette moment. C'est une rencontre qui permet vraiment de vulgariser le mouvement de la danse, qui est très accessible à tout le monde, avec un tarif vraiment très bas, volontaire, hein, parce qu'on voulait vraiment laisser l'accès au maximum de personnes. Et on a même été un petit peu débordé le deuxième soir. On a fait plus de 1100 entrées sur deux jours. Hein, c'est presque le double de ce qui s'est passé il y a trois ans. Alors on s'attendait à un petit peu plus de personnes parce qu'il y avait vraiment eu un réel écho positif de la part du milieu du trad et des danses traditionnelles. Mais de là à faire autant d'entrées, on n'imaginait pas.
Bon, en même temps, c'est une reconnaissance qu'il y ait des fonds européens pour aider à cette initiative-là. Ça veut vraiment dire que l'implication que vous mettez à organiser des événements comme ça, c'est pas simplement mercantile. C'est vraiment du lien social que vous tissez.
Tout à fait. Surtout cet événement-là était très particulier. Pour moi, il est au cœur d'un projet associatif parce que autant en 2009, c'était les salariés permanents qui avaient monté et porté le projet entièrement, autant cette année, il n'était pas possible pour nous, vis-à-vis de l'activité, de porter le même événement. Nous avons donc embauché une personne qui était directement soumis à un comité de pilotage qui regroupait certes des salariés permanents, mais aussi des élus de l'association et d'autres personnes bénévoles, locales, qui avaient envie de s'impliquer. Et cette personne était sous le lien direct de ce comité de pilotage, ce qui permet vraiment de créer cette dimension associative qui s'est développée pendant un an. Hein. Il a fallu un an pour mettre en place ce projet d'envergure.
Bon, prochain rendez-vous
2015, si tout se passe bien, on est... À chaque fois qu'on sort de l'événement fatigué, on se rend compte de l'ampleur de ce que l'on a réalisé et on se dit, oulala, c'est quand même lourd, et on n'est pas sûr de vouloir repartir. Il y a trois ans, en 2011, on a décidé de repartir avec un bon temps d'hésitation et en posant ce cadre dont je vous ai parlé juste avant, hein, de dire qu'il y a une personne qui s'en occupe plus particulièrement et que ce soit pas les permanents qui le prennent en charge. Totalement. Alors, 2015, pourquoi pas? Sûrement sur la commune de la Guépie, parce qu'on a déménagé depuis, on est installé sur la commune de la Guépie. Bon, après, il n'y a rien de sûr, hein, ça sera à voir, on va dire, en 2014.
Nicolas Taraveldier, délégué régional de Solidarité Jeunesse, plus connu sous le nom de Citrus ici. Je vous remercie.
Avec plaisir.
FM. CIF, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Retour sur le label européen Terra Incognita reçu par l'église de la Vinouse à Verlactescu. Rediffusion de l'entretien avec Catherine Ducos, conseillère municipale de Verlactescu. La municipalité, à l'occasion des Journées du patrimoine, a organisé la visite pour les habitants de cette église particulière, avec exposition sur la terre crue, randonnée et petits gâteaux. C'est un bon moyen de faire connaître, non ?
Oui, effectivement, c'est le point de départ de ce week-end auquel notre petite commune et modeste commune de Verlac s'associe pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine.
Alors, vous ne vous contentez pas de cet événement sur un week-end. La terre crue est déjà présente dans les écoles cette semaine.
Tout à fait. Les enfants des écoles de Verlac comme de la Salvetat sont en train de s'initier à la terre crue et doivent patouiller joyeusement dans de la glaise au lieu de la pâte à modeler traditionnelle. Et leur directrice devrait faire suivre cette première initiation par un projet d'école bâti autour de la terre crue et plus généralement du patrimoine qui les entoure.
Alors cette église de la Vinouse qui avait été réhabilitée en 81 et le toit refait en 2011 reçoit un label du projet européen Terra Incognita. Elle est une des rares en terre crue sur le territoire. C'est quand même ça qu'il faut noter.
Oui, tout à fait. C'est un bâtiment exceptionnel. Je crois qu'il n'y en a que deux sur le territoire du département. L'essentiel a été est sauvé, entre guillemets, par la réfection réalisée par la commune du toit. Mais l'ensemble de l'édifice a bien besoin d'une restauration. C'est pour ça aussi que ces manifestations du patrimoine peuvent être l'occasion du démarrage, un point de départ pour une réflexion sur une restauration possible de ce bâtiment.
Dans le dépliant magnifique réalisé par Guy Roumagnac, vous terminez en disant « Et demain, est-ce qu'une mobilisation serait possible pour envisager de la réhabiliter encore ?»
Tout à fait, puisque l'idée de cette manifestation autour du patrimoine, c'est bien sûr de bien comprendre le passé, mais pour se tourner vers l'avenir. Donc comment réhabiliter ce patrimoine, comment prendre conscience de notre patrimoine et bâtir notre patrimoine aujourd'hui. Donc on espère effectivement que ce n'est qu'un début.
Catherine Ducos, je vous remercie.
Merci à tous.
Sandrine Pradier, au service du patrimoine du pays Midi-Quercy, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce label européen Terra Incognita qu'a obtenu l'église de la Vinouse ?
Alors, c'est. En fait, c'est un projet qui s'appelle Terra Incognita, qui est un projet à l'échelle de l'Europe, qui vise à faire connaître l'architecture terre crue, à sensibiliser le public sur ce matériau de construction. Et l'architecture que l'on retrouve partout en Europe.
Bon, mais vous, quand même, au service inventaire, on ne vous la fait pas. Elle est vraiment remarquable dans sa construction. Elle n'est pas remarquable en tant que monument. C'est une chapelle de campagne. De quelle époque, d'ailleurs ?
L'église, en fait, elle est mentionnée depuis le XIIIe siècle.
Oui, mais elle a dû s'effondrer, être rebâtie, non ?
Oui, alors la particularité de cet édifice, c'est qu'il est difficilement datable du fait du matériau. En fait, on est quasiment certaine. Les murs ont été mis en place à l'époque moderne. Et donc a parcouru au moins 3 siècles.
Alors la mise en œuvre de la maçonnerie, c'est quoi ? C'est des briques de terre crue, c'est la terre massive, c'est l'adobe épicé, je ne sais quoi ?
Alors il y a plusieurs pans de murs qui sont établis en terre massive. Donc on a compacté de la terre que l'on a assemblée pour former la structure porteuse sur laquelle on a rajouté pour finir le mur et soutenir la charpente, quelques éléments en grès, en pierre. Mais l'essentiel est en terre massive et une autre partie est constituée en adobe, en briques de terre crue, et puis le clocher constitué de briques cuites. Voilà, mais la particularité de cet édifice est donc de conserver plusieurs pans de murs, deux exactement, en terre massive. On a très peu d'édifices religieux qui ont conservé cette technique.
Alors, à l'occasion de la randonnée organisée par la municipalité de Verlac-Tescou pour aller voir cette chapelle et inaugurer la plaque du label européen, vous allez commenter la visite. Qu'est-ce que vous allez faire remarquer? Tout ce que vous venez de me dire et d'autres choses encore.
Alors, on va mettre un peu en lumière ces particularités, puis expliquer comment cet édifice a pu être construit. Et le mettre en lien avec d'autres édifices qu'on connaît en Tarn-et-Garonne, des édifices religieux. Donc il y en a deux autres qui sont construits en terre, c'est tout. Enfin, à notre connaissance, à la connaissance des spécialistes de l'autre partie du département.
Je vous remercie, Sandrine Pradier.
Merci, Johan.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du Pays Midi Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du Pays Midi Quercy. À la semaine prochaine.